Alors, bonjour tout le monde. On peut dire hein, qu'on est sous le choc ce matin. En tout cas, depuis hier après-midi, j'ai appris la nouvelle. Alors, Cheryl, on est avec toi. Et on sait où il est, c'est rassurant. Mais en même temps, ça fait de la peine. Hein? Et oui, on l'aimait beaucoup. Et il y avait 87 ans, je pense. Hein? Il y avait encore une énergie incroyable. C'est bon. Alors, Marc m'appelle hier après-midi, puis je voyais qu'il n'avait pas terminé son message, puis je lui ai offert de... Bien, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne répète pas le même message que la semaine passée? Hein? Et puis, plus rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là, il y avait un vieux pasteur qui faisait le troisième dimanche qu'il répétait le même message. Puis il répétait le même message. Puis personne n'osait rien dire, tu sais. Et puis il y a une dame, là, qui était courageuse, finalement, est allée le voir après son troisième message, puis elle dit, « Pasteur, réalisez-vous, là, que c'est la troisième fois que vous prêchez la même affaire? » Il dit, « Oui, oui. » Mais il dit, « Quand on aura pratiqué celui-là, j'en ferai un autre. » Alors, on va le passer plus rapidement que la semaine dernière, il y avait un petit sketch avec des principes qu'on va retirer, puis je vais vous demander, à la fin, je vais partager un temps où Dieu s'est révélé dans ma vie d'une façon extraordinaire. Je pourrais passer la journée à le faire, mais on va réduire ça, puis je vais vous laisser l'opportunité de dire, « Hey, Dieu, dans ma vie, il s'est manifesté une fois de telle façon. » Il faudrait que ce soit court, que ce soit concis, mais vraiment qu'on puisse rendre gloire à Dieu pour ces moments-là. Alors, on part avec surprise, Dieu répond. On a une nouvelle année, c'est le deuxième dimanche. Et mon deuxième dimanche à la retraite. Hein? C'est bon. J'aime ça. Ça ressemble à Carl, ça. Alors, c'est un... quelque chose qui est arrivé dans Acte 12. Il faut que je lise pour que ça marche. Ça avance-tu? Peut-être pas. Oui?
Quand tu regardes pas, ça avance.
Ah! Oui. Alors, dans Acte 12, vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église de Jérusalem. Il fit couper la tête à Jacques, le frère de Jean. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs et qu'il gagnait leur faveur, il donna aussi l'ordre d'arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain, avant la fête de Pâques. Alors, on s'imagine un peu la situation. Jacques vient de mourir. Un disciple, un apôtre de Jésus, on le décapite. C'était le traitement réservé aux apostats. Alors, et là, on saisit Pierre. Ça, c'est Pierre, Jacques et Jean, c'était le cercle intime de Jésus quand il était... Sur la terre, il y avait déjà Jacques qui était parti, Pierre qui est capturé, et puis qui est probablement qui va subir le même sort. Là. C'était une question d'heure avant qu'il meure. Et la question, je me suis posée, comment ça se fait que deux frères, Jacques et Jean, c'était deux frères, Jacques va mourir le premier, va mourir martyr, tandis que Jean va être le dernier, probablement, des apôtres à donner sa vie. Alors, qu'est-ce que Jacques a fait pour partir comme ça? Hein? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas sauvé Jacques? Il était en prison, la même affaire. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas sauvé Jacques? L'Église qui n'a pas prié assez? Il a manqué à son devoir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est notre part? Qu'est-ce qui est la part de Dieu là-dedans? Jacques était moins important. Il avait mauvais caractère. Savez-vous comment il s'appelait? Fils du tonnerre. Hein? Ça vous dit quelque chose sur son caractère? Fils du tonnerre. Alors, c'est quoi l'affaire? Est-ce que Jacques est puni, puis Pierre va rester en vie? Question de perspective. Hein? D'un point de vue humain, pourquoi est-ce qu'il y en a un qui meurt puis l'autre pas? Pas de réponse. Vous avez une réponse? Je n'ai pas de réponse. D'un point de vue spirituel, vous vous souvenez que peut-être avancer à la main. Hein? Ça ne marche pas? Non? Oui, ça, c'est une nouvelle qui est apparue sur... en 2016, il y a un chrétien qui est mort pour sa foi toutes les 6 minutes. Hein? Ça fait combien de chrétiens qui sont morts depuis qu'on a commencé notre culte? 40 minutes? Alors, 90 000 chrétiens ont été tués pour leur foi cette année. Comment ça se fait que nous, on peut continuer à exercer notre foi, tandis qu'il y a 90 000 d'entre nous qui ont été massacrés pour la plupart dans des situations extrêmes, incompréhensiblement. Mais on peut avancer? Bon. Paul qui dit aux Philippiens, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alors ça change la perspective. J'ai le désir, qu'est-ce que je dois préférer? J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Alors, on peut donner notre vie en un seul coup, ou le donner à tous les jours pendant 87 ans. Le principe, c'est donnons notre vie. Donnons notre vie à tous les jours, à chaque semaine. Qu'est-ce que ça veut dire donner ma vie en 2017, mon frère, ma sœur? Hein? Qui est-ce qui va être, la semaine dernière, je disais, qui d'entre nous va être appelé? Et puis la réponse, bien, c'est Carl qui a été rappelé. Qui va être rappelé cette semaine? Comment je vais? Puis je veux pas culpabiliser, au contraire, de dire, hey, on a du temps précieux à investir pour le Seigneur. Comment est-ce que je vais, Seigneur, comment je vais investir mon temps cette semaine pour faire des bonnes choses? Hein? Avec les dons que tu m'as donnés, à l'endroit où tu m'as placé, comment est-ce que je peux donner ma vie goutte à goutte, si on peut dire? Pas à pas, heure après heure. Combien de temps ça va durer? On ne sait pas, ce n'est pas sous notre contrôle. Ce qu'on a le contrôle, c'est la journée d'aujourd'hui, puis la semaine qui s'en vient. Comment est-ce que je peux investir dans le royaume de Dieu? Jacques, oui, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, hein, sont allés voir Jésus une fois, et qu'est-ce qu'ils leur ont demandé? Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, lorsque tu seras dans ta gloire. Il est où, Jacques? Assis à la droite de Dieu dans la gloire. Il est où, Pierre, le malchanceux? Lui est resté, puis pendant toute sa vie, il va endurer toutes sortes d'épreuves. Alors, c'est relatif, hein? Jacques a été appelé, il est dans la gloire du Seigneur, tandis que Pierre demeurait sur terre, puis il va attendre un petit peu. Alors, donnons notre vie. Jacques est mort, Pierre est arrêté, puis il y a un affrontement. Je ne sais pas où. Ah, OK. Oui, excellent, merci. Ouais. Puis à mon âge, ça me déconcentre. Là, je ne sais plus où je suis rendu. Alors, Jacques meurt, Pierre est arrêté. Et là, il y a un affrontement. Il y a les forces contraires. Et puis, il y a l'Église. D'un côté, hein, tu as Pierre qui est en prison, sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Si vous avez été là la semaine dernière, vous avez vu qu'on est équipés en soldats. On a fait un sketch avec des soldats. Il avait l'intention, après la Pâque, de le faire comparaître devant tout le peuple pour le juger et le faire exécuter. Pendant que Pierre était étroitement surveillé dans sa prison, l'Église ne cessait de faire monter vers Dieu d'instants de prière en sa faveur. Alors, d'un côté, on a Hérode, on a le peuple juif qui veulent la peau de Pierre. Il est en prison, il est enchaîné, il y a deux gardes couchés à côté de lui, il y a deux gardes à la porte, ils ne le perdront pas, celui-là. Les disciples ne pourront pas dire qu'il hein, est ressuscité ou quoi que ce soit. Alors, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? L'Église. C'est nous qui prions pour Pierre. Alors, qui va gagner?
L'Église.
L'Église. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il fait, lui? Bon, qu'est-ce qu'il faisait, Pierre? Pfiou! Le Pierre, il dort. Hein? Il y a des chaînes à chaque main. Tu as deux gardes à côté de lui. Tu es en prison. Est-ce que ça peut être plus confortable que ça? Hein? Mais il a appris à être en paix dans la tempête. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu traverses une tempête? Ça ressemble-tu à ça? Tu te sens prisonnier, tu te sens enchaîné, tu te sens que le mal va te, hein, va avoir le dessus dans ta vie. Comment on fait pour dormir? Comment est-ce que Pierre a fait pour dormir? Deux possibilités. Soit que Pierre se dit, bon, écoute, envoie, je vais mourir demain, et puis tant mieux, je vais être dans la présence du Seigneur. Ou bien, le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur va faire quelque chose de bien. Alors, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'angoisser? Pourquoi sur les choses qu'on ne contrôle pas? Hein? On ne contrôle pas les affaires. Puis notre plus grande faiblesse, c'est d'essayer de contrôler des choses qu'on ne contrôle pas. Puis là, on s'inquiète, puis là, on s'angoisse, puis on ne dort pas. On ne dort pas. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Seigneur, c'est toi qui as le contrôle. Je m'abandonne entre tes mains plutôt que entre les mains de ces gardes-là. Et puis, Seigneur, je suis prêt. Hein? Si tu veux que je meure martyr, pas de problème. Envoie, allons-y. Dans quelques heures, je vais être dans ta présence. Ou bien, Seigneur, c'est toi qui as le contrôle, puis il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Et puis, tu vas te manifester à travers les pires moments, les pires circonstances, le Seigneur est là. Faisons confiance au Seigneur cette année. Hein? Tu vis des choses difficiles, tu n'as pas le contrôle. Donne ça au Seigneur. Abandonne ça au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Pierre, il dormait en prison, enchaîné, avec la peine de mort sur ses épaules. Alors, tu n'y peux rien, donne le contrôle au Seigneur, puis dors en paix. Facile à dire. Puis je peux reprêcher la semaine prochaine, tant qu'on ne l'aura pas pratiqué. Et quelle a été la réponse? Ça, c'est vraiment comique, là. Ça avance-tu, oui? Hein? Oui, oui, c'est ça, regarde. Ça recule. OK, on est rendu là, non? OK, verset 7 à 10. Alors, Pierre, il dort. Il y a un gros flash de lumière qui arrive dans la prison. Hein? Ça inonde la cellule d'une vive lumière. L'ange, il secoue Pierre.
Il dormait solide.
Il dormait solide. Il était vraiment... Mais c'est drôle quand même. Il secoue Pierre. Il dit « Vite, debout. » Mon Pierre, il a l'air dans... Il a l'air dans la vague, là. Au même instant, les chaînes lui tombent des poignets. Puis là, il dit « Mets ta ceinture, attache tes sandales, mets ton manteau. » Un vrai bébé, là. Hein? Il parle comme... Ouais. Suis-moi. Il passe le premier poste de garde, le deuxième poste de garde, puis il se retrouve dehors. La grâce hein, souveraine de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire contre la grâce souveraine de Dieu? Juste obéir comme un bébé. Hein? Quand j'ai accepté le Seigneur, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste dit, oui, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur. Qu'est-ce que je pouvais faire? Dire d'autres. On n'a aucun pouvoir. Pierre, il a été sauvé comment? Parce qu'il s'est battu contre les gardes, puis il a fait un plan pour sortir de prison, pour se sauver lui-même. Non. Il a juste fait confiance à Dieu. Et quand on fait confiance à Dieu, on a juste à obéir. Seigneur, je te suis. Hein? Alors, Et ça continue. Il dit, ah, maintenant, je comprends. Une fois qu'il est sorti de prison, de son rêve, là, il réalise que ce n'est pas un rêve, justement, que l'ange est bien réel, que tout ça, il tombe dans la réalité. Il se met à réfléchir, ce qu'il ne faisait pas avant, et bien conscient, se dirigea vers la maison de Marie. Alors, Marie, c'est la mère de Marc, qui est le futur évangéliste. Donc, c'est un groupe de... On n'a pas inventé ça, les groupes maisons. Hein? Il y en avait plein à Jérusalem, puis ils se cachaient, puis ils adoraient en cachette. Et Pierre, durant la nuit, qui était peut-être les gardes s'étaient aperçus qu'il était disparu. Alors, Pierre a décidé d'aller dans peut-être un groupe maison important, là, dans la maison de Marie. Puis il frappe au battant de la porte. Et ça continue. Une jeune servante, Rhode, s'approche pour écouter. Et puis, à peine eut-elle reconnu la voix de Pierre que, dans sa joie, elle se précipite à l'intérieur, oubliant d'ouvrir le portail. Pierre est là, il cogne. La jeune Rhode, ou je ne sais pas quel âge elle avait, en tout cas, Rhode, se précipite à l'intérieur, il y avait comme une cour, et elle oublie d'ouvrir le portail. Et annonça, c'est Pierre. Il est là, dehors, devant la porte. Et la réponse de l'Assemblée, c'est... Ça manque de conviction, là. La réponse de l'Assemblée, mettons, je suis Rhode, là. Pierre, il est là, à la porte, là.
Voyons, t'es
fou. Comment, là? Un peu plus de... Pierre, il est là, puis il cogne à la porte.
T'es
oh, ça se monte. Mais en démordant pas. Je vous assure, c'est vrai. C'est vrai. C'est son... Ça doit être son ange. Il croyait qu'à la mort, l'ange prenait la place du chauve. Pendant ce temps, Pierre continuait à frapper. Imaginez? Et ils se décidèrent enfin à ouvrir. En effet, c'était bien lui. Ils manifestèrent bruyamment leur surprise. Alors, voyez la scène. On s'ostine à l'intérieur pour... Mon Pierre, il est là à la porte, puis il cogne, puis il cogne, puis il cogne. C'était assez pathétique, hein? Alors, est-ce que ça vous arrive des fois que Dieu se manifeste d'une façon extraordinaire dans votre vie? Que la réponse tombe du ciel. Je vais vous raconter ça tantôt. Mais pensez-y, un moment dans votre vie où vous avez vécu quelque chose qui ressemble à ça, là. Vous avez été victime d'une intervention divine. Alors, la caricature continue, hein? Et c'est assez sarcastique de voir une église qui est en prière pour Pierre. Pendant la nuit, il prie, puis il prie. Dieu répond, Pierre se présente à la porte, puis il ne croit pas. Il ne croit pas. Hein? Pendant qu'ils se disputent en dedans, puis ils ont prié pour que Pierre soit libéré. Pierre est libéré, puis... Il ne croit pas. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui peut ouvrir, s'il vous plaît? Hein? Ouais. Est-ce que ça vous arrive de prier sans y croire vraiment? Ben, on n'est pas tout seul. Hein? C'est bon de... Même après la Pentecôte, de voir que Dieu répond même à nos prières. Même s'il n'y a pas... Hein, ça prend un grain de synové, un grain de foi pour que Dieu déplace des montagnes. Et Dieu a répondu à la prière de son peuple. Est-ce que Dieu répond toujours?
Oui.
Qu'est-ce qu'il répond, Lise?
Oui. Non. Attends.
Attends. Il répond oui, il répond non, il répond attends. Hein? La prière, ce n'est pas un moyen pour que Dieu fasse à notre volonté. Ne mêlons pas les rôles. J'ai parlé de ma grand-mère, là, hein? Quand il ne répondait pas, là, le... le crucifix, là. Elle prenait le crucifix, là, puis elle le mettait dans son tiroir de la commode en dessous. Il n'a pas été fin avec elle. Hein? Il n'a pas répondu à ses prières. On a mêlé on mêle les choses. Hein? La prière, ce n'est pas mettre Dieu à notre service, qu'il fasse à notre volonté. La prière, c'est quoi? Me mettre au service. Seigneur, je me mets à ton service. Seigneur, quelle est ta volonté? Et savez-vous que c'est ce que Jésus a fait? Trois fois? Hein? Asseyez-vous ici pendant que je vais m'éloigner pour prier. Il pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Hein? Deuxième fois, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, maintenant il dit que ta volonté soit faite. Et troisième fois, il pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. La prière, c'est faite pour me mettre au diapason, en harmonie avec la volonté de Dieu, avec ce que Dieu veut pour ma vie. Alors, prions. L'apôtre Paul, hein, j'ai trouvé un autre. Dans 2 Corinthiens, Paul dit, au sujet de cette épreuve, j'ai prié par trois fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu. Est-ce qu'il répond? Il a répondu quoi? Il a répondu non. Tu ne seras pas délivré de cette écharde. Ça peut être ses yeux qui étaient laids à regarder, ou ça peut être une épreuve comme dans sa chair. Alors, Seigneur, il a dit, ma grâce te suffit. Et des fois, la réponse du Seigneur, c'est ça, ma grâce te suffit. Lâche pas Michel. Lâche pas Michel. Lâche pas Michel. Cette épreuve-là, elle a un sens en quelque part. Tu ne comprends pas? Pas grave. Ça a un sens en quelque part. Et on peut dormir en paix. Hein? Alors, ça, c'est toute une leçon. La prière, c'est pour mettre mes pensées. Penser comme Dieu pense. Désirer comme Dieu pense. Dans Éphésiens 3:20, il y a une promesse. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, on croit de ça? Comme les disciples dans la chambre, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. On croit de ça? À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, siècles des siècles. Par la puissance qui agit en nous, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons ou imaginons. On pourrait traduire ça. Et à lui la gloire. C'est quoi ma prière? C'est quoi cette intervention-là de Dieu que Dieu veut faire dans ma vie? Est-ce que je peux me mettre au diapason, en harmonie avec la volonté de Dieu cette année? Et là, je vous laisse la parole. Pensez à une intervention que Dieu... Soyez... assez court, mais je vais vous partager quelque chose, une intervention de Dieu qui était assez extraordinaire. C'est quand on a été appelé, Lise et moi, comme pasteur en 1978, au 20e siècle. Hein? trois bébés, puis j'avais 3 ans. Et... Jonathan venait d'accoucher 10 jours. Et puis, le Seigneur nous avait appelés en Abitibi. Si vous regardez sur la carte, là, c'est presque l'Afrique. Tu as l'Abitibi, tu as l'Afrique. 10 heures d'auto de Drummondville. Alors, le Seigneur avait des plans incroyables pour nous. Et puis, j'avais une maison neuve, venais d'acheter une maison neuve à Drummondville. Et puis, il fallait vendre en vitesse parce qu'on déménageait là-bas. Et puis, une fois que c'est passé chez le notaire, on a dû payer l'agent d'immeuble. Je devais 1 500 $ que je n'avais pas dans mes poches. Seigneur, c'est toi qui appelles, c'est toi qui pourvois. J'arrive à l'église, pour parler de ça à personne, j'arrive à l'église, il y a un frère qui dit, « Michel, le Seigneur m'a mis à cœur de donner 1 000 $ Fait que là, j'ai dit, « OK. » Là, j'y raconte mon histoire. Il m'a dit, « 500 de plus. » Et là, on a acheté une maison là-bas, avec rien, zéro. La maison, c'est une vieille maison qui a été à vendre depuis 2 ans, je pense, au centre-ville, avec des tavernes autour. Puis, écoutez, on était dans un quartier favorisé, avec une belle maison. Puis là, on se trouve au centre-ville de Rouyn-Noranda. Hein? Sonny connaît ça. Il vient de là. C'est la rue Taschereau. Ouais, la rue principale, la rue Taschereau. Et puis, là, ils arrivent avec les enfants par avion, parce que moi, j'étais monté avec le camion. Et puis, on a passé 2 ans là. Vous connaissez Murray Héron? C'est l'oncle de Alan Héron qui alors, on prenait la relève de ce pasteur-là. C'est un pionnier dans la province de Québec. Mais là, il n'y avait plus d'église, il n'y avait plus rien. Il y avait 2 personnes qui restaient. Alors, pendant 2 ans, on a tout fait, là, évangélisé, on a fait des théâtres de marionnettes dans les parcs, on a des tables de livres au cégep, des tables de livres dans les centres commerciaux. Je vous dis, là, tout ce qu'on a pu faire. Après 2 ans, il y avait 3 étudiants qui avaient accepté le Seigneur du cégep, puis il y avait une dame qui travaillait à la pharmacie, était pharmacienne. Les 4, après 2 ans, partent. Ils s'en vont étudier à Montréal. Alors là, tu dis, bon, Seigneur, OK, on était venu ici pour 1 an, on est resté 2 ans. Ça va nous prendre un signe, Seigneur. Il faut que tu nous donnes un signe, là, comme quoi on continue. Puis on était prêts à le faire. Mais là, on recommence à zéro, là. Hein? Quand vous avez 6 personnes dans une assemblée, wow! Hein? Mais là, tu tombes, il restait les 2 autres, là. C'était difficile. Alors, pendant le temps des fêtes, on est allé à Drummondville, dans notre famille. Et puis, en revenant, j'avais 3 enfants. C'était un station wagon, puis là, on baissait le siège, je mettais un matelas. Dans ce temps-là, il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de toute la kit. On couchait 3 enfants là, puis on montait pendant 10 heures. Alors, je m'en vais sur l'autoroute, dépasser Saint-Hyacinthe. Et puis là, je ne m'étais pas aperçu qu'il y avait de la glace noire. Là. Puis là, il y avait un camion à droite. Et là, l'auto se met, perd le contrôle de l'auto. L'auto se met à zigzaguer comme ça. On rentre dans le terre-plein, là, entre les 2 voies. Puis on s'en allait foncer directement sur face à face avec l'autre voie qui était dans l'autre direction sur l'autoroute, là. Alors, je savais qu'il ne fallait pas donner de coups, fait que j'ai crampé un petit peu, mais là, toute la neige s'est ramassée dans le pare-brise, je ne voyais plus rien. L'auto s'est immobilisée, finalement. Là, les essuie-glaces se sont mis à laver l'essuie-glace. Puis là, je me suis aperçu, savez-vous où est-ce qu'on était? Sur l'accotement à gauche. On était revenu sur l'accotement à gauche. Et là, j'ai réussi à reprendre la route, mais les mains te shake comme ça, puis tu dis, Seigneur, je ne suis pas capable de faire 10 heures d'automobile comme ça. On appelle des amis à Belle-Oeil, c'était la fille du pasteur de Drummondville, qui demeurait à Belle-Oeil, on réussit à les rejoindre. Pouvez-vous nous héberger cette nuit, parce que on vient de frôler la mort, là, puis c'est... on est hébergé, oui, venez-vous-en, ils nous accueillent. Puis là, on se met à jaser, puis là, il commence à dire que le pasteur qui est là, il n'est plus capable de s'occuper de l'Église, qu'il cherche un pasteur. Ah! Bien, c'est drôle, mais nous autres, on est devant le Seigneur, puis on cherche sa volonté. On arrive à Rouyn-Noranda le lendemain. Je reçois un coup de téléphone du pasteur. Il dit, « Tu peux-tu venir prêcher la semaine prochaine? » Il dit, « On aimerait ça t'entendre. » Et on l'a fait. Puis là, c'était une histoire d'amour là, incroyable. Il y avait 13 membres, je pense. On était 14e et 15e membres. Puis 5 ans plus tard, il y avait 150 personnes dans l'église. On avait baptisé des... Une année, on avait baptisé 30 personnes. T'as tous des nouveaux convertis. C'était le même pasteur, le même gars, là, à Rouyn-Noranda, qui essaie de faire tout ce qu'il peut pour amener une âme au Seigneur, puis un petit peu de fruits. Le même gars, là, il n'a pas changé. Hein? Gloire à Michel. Hey! Hein? Gloire à Dieu. Alors, Dieu est intervenu d'une façon miraculeuse. Et je pourrais vous en raconter encore, là. Seigneur, tu m'as amené ici, tu vas payer facture. Hein? Ça ressemblait à ma grand-mère un petit peu, là. Et je faisais des chèques, puis on avait des dons qu'on recevait dans la poste. On avait presque pas de salaire, on avait quitté. Je pense que je vais terminer avec la fin de l'histoire quand on a mis la maison. On a acheté une maison à Mont-Saint-Hilaire. À l'époque, ça se faisait. Je sais pas si on a étudié mon crédit, mais en tout cas... On a réussi à acheter une maison, mais il fallait vendre la maison, la vieille maison à Rouyn-Noranda. Et on avait 3 mois pour le faire. Je me suis dit, bon, eux, ça avait pris 2 ans avant qu'ils la vendent, mais avec le Seigneur, 3 mois, ça devrait être correct. 1 mois passe, 2 mois passe, 3 mois passe, pas aucun appel. Il y avait même une annonce dans le journal. Puis j'avais eu ma leçon avec les agents d'immeuble. Là, je ne vais pas me retrouver avec une dette. J'irai quand vraiment on partira. Le camion de déménagement est dans la cour. Ils se mettent à remplir les meubles pour déménager. On partait le lendemain. Et puis, maison pas vendue. Elle avait mis une petite pancarte à vendre. Il y a une dame qui passe. Elle dit, t'as une maison, la maison est à vendre? Elle dit, oui. Ben, elle dit, je peux-tu visiter? Je dis, vas-y, madame, je suis occupée avec les déménageurs. La madame a fait le tour de la maison. Elle sort dehors, elle dit, ça m'intéresse. Elle dit, m'en parler à mon... Je pense que c'est à son cousin. Et puis, il y avait un héritage là-dedans. Et puis, j'ai dit, je pars demain, il faudrait vous décider. Elle revient l'après-midi avec son frère ou son cousin. Et puis, ils me font une offre, exactement le montant que j'avais besoin. L'église de Saint-Hilaire était en prière depuis 3 mois. Hein? On était la dernière journée, la date limite. Le gars, il dit, c'est quelqu'un de sa parenté qui était notaire de l'autre côté de la rue. Il dit, viens demain matin, les papiers vont être signés. Fait que va signer les papiers le lendemain matin de la vente. Je n'ai pas dit un mot à personne. J'arrive le dimanche matin à l'église, à Mont-Saint-Hilaire. Je sors le papier, je dis, savez-vous c'est quoi ça? Hein? C'était l'acte de vente de la maison. Hein? Ça a été le délire, là. Comment Dieu pourvoit d'une façon incroyable. Fidèle. Dernière minute, souvent. Hein? Même dépasser la dernière minute, il veut vraiment faire grandir notre foi. Notre foi est épurée comme de l'or. Michel, tu me fais-tu confiance? Hein? Alors ça, c'était... Une petite expérience d'un Dieu qui est vraiment fidèle et qui répond d'une façon miraculeuse. Ça, c'est des, même ma mère puis les personnes qui, quand je raconte ça, là, ils en revenaient pas encore. Ma mère me disait, tu te souviens la vente de ta maison? Comment c'était extraordinaire?